Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Aujourd'hui, l'histoire de Marc Giraud, victime d'un infarctus massif et qui finalement a dû se résoudre à une transplantation cardiaque. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Marc est médecin, chirurgien, et que d'un coup, il bascule du côté des malades. Et il est là, bien sûr, puisque c'est une histoire qui se finit bien. Bonjour Marc Giraud.
Bonjour Christophe.
Vous avez raconté toute votre histoire dans un livre paru il y a quelques années, À cœur perdu, aux éditions L'Appart. C'est donc à partir de votre livre que j'ai bâti ce récit très personnel que j'ai écrit avec l'aide de Simon Veil. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Nous sommes le dimanche 4 août 2002 et je suis dans le TGV Narbonne-Paris de 22h. Fini les vacances. Il y a quelques heures, j'avais encore le tss-tss-tss-tss des cigales dans l'oreille. C'était mes premières vacances officielles avec Nathalie. Ça s'est bien passé, hein, avec mes trois enfants. Ils se sont entendus à merveille avec elle. Et c'est ma première grande satisfaction depuis mon divorce il y a 2 ans, avec leur mère. Et dans quelques mois, à 45 ans, je vais me retrouver à donner le biberon. Nathalie est enceinte. Là, elle est restée chez ses parents. Je ne suis pas mécontent de remonter seul. Un petit sourcil de célibat. Demain, je serai au bloc en train d'opérer. On a 1 heure de retard. Le temps d'aller au parking récupérer ma voiture, le périph, l'autoroute A1 sur 70 km, je ne serai pas à Compiègne avant 1h du matin. Je suis associé dans une clinique là-bas. Je suis urologue, chirurgien. Avant, j'étais dans le public à l'hôpital Cochin à Paris, mais je n'étais pas trop fait pour obéir aux mandarins. Alors je me suis endetté jusqu'au cou, je me suis fait très peur. Et j'ai repris une grosse clientèle à Compiègne, dans une clinique. J'ai bien fait. En quelques années, j'ai doublé le chiffre d'affaires. Je me suis éclaté. Bon, c'est un peu soutenu, hein, comme vie. Les gardes, le bloc, les consultes, les conférences, les dîners, les congrès. Mais ça paye. J'ai une belle demeure face au golfe de Compiègne, avec un parc à la française. En quelques années, mon niveau de vie a explosé. Évidemment, mon couple est passé au deuxième plan. Je n'ai pas vu grandir mes enfants. Et il y a 2 ans, ça s'est terminé par un divorce. J'ai la garde de mon fils Antoine et ma femme a la garde des 2 filles. Et puis après, j'ai rencontré Nathalie. Visiteuse médicale, blonde, les jambes assez fines, de longs cheveux attachés en arrière, les yeux verts brillants. Et maintenant, on attend un bébé. Je me demande si je devrais pas arrêter. Les couches, les nuits blanches, les poussettes, l'école maternelle, les divisions, les devoirs du soir. J'en prends pour 20 ans de plus. Bon, me voilà à la gare de Lyon. Fin du voyage. Je suis sur le quai. Je zigzague au milieu de toute cette foule. J'accélère le pas. Et là, d'un coup, une douleur atroce me traverse la poitrine. Une douleur qui m'écrase. L'impression qu'un 15 tonnes est en train de me passer dessus. Je suis médecin. J'essaye de me souvenir de mes cours. J'ai l'impression d'une chape de plomb sur la poitrine, plus irradiation vers la mâchoire et les poignets. Soit c'est une rupture d'anévrisme thoracique, soit c'est un infarctus du myocarde. En pleine gare de Lyon. Je me sens partir. Je tombe. Personne ne s'en rend compte. Si ça continue, je vais crever. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Ça va pas? Je suis médecin. Je crois que je fais un infarctus. Vous pouvez appeler au secours? Et là, je vois 2 pompiers arriver en courant. Allongez votre bras. Je vais prendre votre tension. C'est pas la peine. Je suis médecin. Je suis sûr que je fais un infarct. Appelez le SAMU rapidement. Je vais le faire, monsieur, mais je dois d'abord prendre votre tension. Je peux pas appeler le SAMU tant que j'ai pas pris votre tension. On s'en fout de ma tension. Appelez le SAMU. 12-8. Bon, la tension est bonne. Vous êtes sûr que vous faites un infarctus? C'est bon. Il a appelé le SAMU. Ok, on le met dans le camion tout de suite. Infarctus massif et étendu. Fais-lui la totale. Il nous faut au plus vite une réa cardiaque.
Dirigez-vous vers les urgences de la Pitié-Salpêtrière. Pitié-Salpêtrière.
1h du matin. Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, service de cardiologie. C'est la première fois que je vois défiler allongés les néons d'un couloir d'hôpital. Mon point de vue vient de changer. Je vois les gens par en dessous.
On vous attend au 3e pour une coronaro.
Pour ceux qui n'y sont pas encore passés, j'explique. La coronographie consiste à radiographer les artères du cœur avec un produit de contraste pour vérifier leur état et trouver la cause et l'endroit où elles sont bouchées. Ensuite, on introduit des petites sondes à ballonner pour les dilater ou les déboucher.
Bonjour, chérie. Allez, faut que tu te déshabilles, hein. Tu veux tes vêtements? J'enlève tout? Bien sûr, tu te crois à la plage ou quoi?
J'ai un peu de mal à m'exécuter dans cette grande pièce éclairée devant elle. Mais bon, j'obéis docilement et je me retrouve nu comme un ver. Deux infirmiers silencieux s'agitent avec de grosses seringues et des flacons de perfusion. Un homme masqué s'approche.
On va faire des radios de vos coroneurs, hein? Je vais passer un cathéter dans l'artère fémorale et je vais remonter vers le cœur. Ne vous inquiétez pas, hein, vous n'allez rien sentir.
Je pourrais peut-être lui dire que je suis chirurgien. Et puis non. Éclair de lucidité, les complications sont plus fréquentes quand on traite un confrère. J'ai déjà assisté à ce genre d'examen. Je connais la taille de l'aiguille qu'ils vont m'enfoncer dans l'aine, comme la corne d'un taureau. Mais finalement, ça se passe bien. Il y a un écran au-dessus de ma tête. J'assiste en direct à la visite de mes coronaires. Et là, tiens, le cathéter lâche un liquide opaque qui fait apparaître mon coronaire gauche. Bouché. Archi-bouché. À partir de ce moment-là, je perds le fil des événements. La douleur, la morphine, la fatigue. Je me sens glisser dans une sorte de coma douloureux et nauséeux. Avec des pics de douleur qui me ramènent à la réalité, le radiologue est en train de retirer un par un les caillots de sang qui obstruent ma coronaire. J'ai envie de lui dire merci. Merci! Vous êtes formidable. Mais je suis déjà reparti. Destination inconnue. Que scellé ce plafond crasseux, ponctué de ces vieux néons poussiéreux et jaunis. Oh, que scellé! On devrait y faire des dessins. Ou des tags géants, écrire des charades. Comprends que j'arrive à l'USIC, l'unité de soins intensifs cardiaques, dans une cellule de 4 mètres sur 4, équipée comme un cockpit d'Airbus. On me branche de tous les côtés. Et puis, j'arrive pas à m'endormir. Je voudrais, hein. Mais les néons en pleine figure, les alarmes, les bip-bip, le tensiomètre qui se gonfle toutes les 5 minutes, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Il est 8h. Enfin, c'est ce que dit la pendule qui est en face de moi. Je suis là. Le film redémarre lentement. Ah oui, j'ai fait un infarctus. Je suis en réanimation cardiaque à la Pitié-Salpêtrière. 8h. Je devrais être à la clinique. Je devrais être au bloc. Le patient doit être déjà sur la table. L'anesthésiste m'attend. Mon téléphone. Où est mon téléphone? Table de nuit? Non. Non, la poche? Non, non, plus de poche. Ah, mon téléphone, ils l'ont mis dans un sac plastique avec mes fringues. Et le sac, je le vois là. Il est là, il est sur la chaise à l'autre bout de la pièce. Je dois l'attraper, attends. Avec mes perfusions, mes fils, c'est pas facile, hein. Ça y est, je l'ai. Allô? Catherine?
Ah, docteur Jérôme, je suis contente de vous entendre, vous avez passé de bonnes vacances? Le bloc vous cherche partout, votre première patiente dort déjà, vous êtes où?
Catherine, j'ai un problème, j'ai fait un infarctus. Je suis en réanimation à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Prévenez le bloc qu'il faut annuler, quoi. Je pourrais pas être là. Dites que je serai de retour, je sais pas, la semaine prochaine? La semaine prochaine? Oui. Tous mes copains qui ont fait un infarctus à 45 ans s'en sont très bien tirés. Un stint, quelques jours de surveillance, une petite leçon de morale, un bon régime et basta. Bon, maintenant il faut que j'appelle Nathalie. Allô Nat? C'est Marc?
Marc, tu charries, je me fais un sang d'encre. Où t'es? Pourquoi tu m'as pas donné de nouvelles?
T'inquiète pas Nat, tout va bien. J'ai eu un petit problème de santé. J'ai été hospitalisé en urgence à la Pitié-Salpêtrière.
T'as eu un accident?
Non. J'ai fait un petit problème cardiaque.
C'est grave? J'arrive.
Oh là. J'ai la vessie pleine à craquer. Et pour la première fois de ma vie, on pratique sur moi ce geste que j'ai moi-même pratiqué à des milliers de patients. On me pose une sonde urinaire. Tiens, ça fait beaucoup moins mal que ce que j'avais imaginé. Ouf! Ouf, ça va mieux. Et là, j'attends Nathalie. Et ça recommence! Cette douleur qui revient! Mon corps qui ne semble plus répondre, tout se brouille, tous mes sens s'éteignent. Un tourbillon noir qui m'aspire vers une lumière blanche étincelante. Et là, je suis au bord de l'éblouissement quand d'un coup, comme si on avait mis le disjoncteur sur off, tout s'éteint. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous venez de faire un arrêt cardiaque, monsieur. Assez sévère. Votre cœur a pas mal souffert, hein? Il est encore faible. On va vous mettre un ballon de contre-pulsion dans l'aorte pour le soulager. La suite demeure très vague. Trois chirurgiens attendent que j'ouvre les yeux pour me parler. Bon monsieur, on va devoir vous mettre un cœur artificiel, hein. Votre cœur est trop faible, il ne répond pas. Nous avons dû vous ranimer plusieurs fois. Hein? C'est beaucoup plus grave que ce que j'avais imaginé. 45 ans, un infarctus jeudi t'es sorti, mais là... Là c'est beaucoup plus grave. Va falloir vous opérer monsieur. Hein, ouvrir votre poitrine, brancher directement à la sortie de votre cœur des tuyaux pour le court-circuiter en quelque sorte, et ensuite une pompe va être branchée parallèlement à la circulation sanguine. Bon, ok. J'embrasse Nathalie qui est arrivée et j'entre dans l'univers familier de la salle d'opération. Bonjour monsieur Giraud, je suis votre anesthésiste. Je vais vous endormir dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Vous êtes chirurgien, on m'a dit? Je vais vous faire une petite prémédication pour vous détendre. Je me suis endormi comme un bébé. Quand je me réveille, je suis passé de l'autre côté. Je suis entouré de scopes, d'écrans de contrôle, de colonnes de seringues, je connais tout ça. En revanche, posé contre mon lit, il y a une machine insolite. On dirait une machine à laver la vaisselle. Un gros cube en métal de 1,20 m de côté. Avec un écran de contrôle et deux tuyaux en caoutchouc, gros comme des tuyaux d'arrosage. Deux tuyaux qui sortent de l'arrière de la lessiveuse et qui se faufilent sous mes draps, pénètrent dans mon corps entre mes côtes et viennent se ficher directement dans mon cœur. C'est donc ça, mon cœur artificiel. C'est le prix à payer pour ne pas mourir. J'effleure ces deux grosses artères qui sortent de mon corps. Et étrange sensation, hein, de pouvoir sentir le flux de son propre sang bien chaud à travers le tuyau. Il ne faudrait pas qu'un tuyau se coude pendant mon sommeil, ou qu'il se fende par un coup de cutter. Ça va durer longtemps, mon accouplement avec Robocop. Quelques jours plus tard, une dame vient m'informer de la suite. Bien, monsieur Géraud, on a fait une demande de greffe en vue d'une transplantation. On n'est pas du tout sûr que votre cœur récupère. Je reste liquéfié, sans réponse. Et dire qu'il y a 3 jours encore, j'étais en pleine forme. Et là, je réalise l'impact psychologique destructeur qu'engendre l'annonce d'un grave problème médical. Tout s'effondre. Tous vos projets sont interrompus, la vie s'arrête. Et là je revois des scènes qui ont marqué ma carrière, la liquéfaction des patients quand je leur annonce un cancer. L'idée d'une transplantation m'éclate le cerveau. Je ne serai jamais plus comme avant. Je serai un vase cassé, recollé, plus fragile. J'ai décidé de veiller à mon look. T-shirt sympa, petit boxer short, rasage de près, déodorant, parfum et les cheveux surtout, toujours nickel. Je n'ai pas droit à beaucoup de visites, mais Nathalie est là. Elle est enceinte de 3 mois, mais sa grossesse est reléguée au second plan, il faut bien l'avouer. Mon frère est là aussi, d'un optimisme débordant. Mon beau-père, mes parents et mon ex, Valérie, qui est venue évaluer la situation pour les enfants. Pas une question sur ma santé, pas la moindre compassion. Elle m'a porté une boîte de nougatine, le seul truc imbouffable quand t'as des tuyaux partout. Et puis Claude, là, mon fidèle ami de randonnée, qui vient me voir régulièrement. On a fait la fête à une bonne bouteille de Calon Ségur, qu'il a passé sous sa veste. 15 août, ça fait 11 jours que je suis descendu de ce TGV. Je suis un peu étonné. Je ne vois que très rarement mon chirurgien. Mais tiens, le voilà. Je le sens préoccupé. Ou plutôt, solennel. Ça va, Marc? Désolé de ne pas venir te voir plus souvent, mais au mois d'août, tu sais, on est toujours un peu débordé. Bon, les anesthésistes me disent que ton cœur est en nette amélioration. On va donc pouvoir te débrancher et remettre ton cœur en marche. Et la transplantation? Écoute, si tout se passe bien, tu n'en auras pas besoin. Oh, merci. C'est génial. Donc, on va te réopérer. Lundi. Et donc, nous fêtons le désarrimage de ma machine avec Nathalie, avec une bonne bouteille de Bordeaux. Le lundi, comme j'ai été rajouté au programme à la dernière minute, je dois poireauter toute la journée. Il est 21h passées quand j'arrive au bloc. Au réveil, j'entends. Arrêtez de bouger. Levez la tête. Ok, ouvrez les yeux. Respirez. Respirez. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'agressivité? J'aurais dû être heureux d'être débarrassé de ma machine. Mais en fait, maintenant, ça m'angoisse. Et puis un soir... Eh bien, mon cher Géraud, vous vous en sortez bien. Votre cœur est en train de récupérer. Encore, je dirais, un bon mois de rééducation. Et je pense que vous pourrez reprendre vos consultations le 1er novembre. Bonne soirée, Géraud. Et bon retour. Et me voilà donc de retour à Compiègne, au centre de rééducation d'Olancourt, pour me retaper et passer le plus vite possible à autre chose. Il m'a bien dit, le 1er novembre, vous pourrez reprendre vos consultations. Donc j'ai 1 mois et demi pour me refaire une santé. Mais au bout d'une semaine, mon enthousiasme commence à flétrir. Je me sens fatigué. Et puis j'ai tout le temps envie de dormir. Et puis l'ambiance du centre commence à me peser. Alors j'ai remarqué qu'entre 20h30 et 7h du matin, personne ne passe dans ma chambre. Et ma chambre est tout près de l'issue de secours. J'ai décidé de m'évader, de rentrer chez moi clandestinement, tous les soirs, de rejoindre Nathalie et mon fils Antoine. On fait même l'amour, comme des fous. Je suis à peine un peu essoufflé. Le 1er novembre, je serai un homme neuf. Un soir d'évasion, je commence à étouffer. Et mon cardiologue en ville me dit
« Je voudrais pas te faire peur, hein, mais ton cœur ne récupère pas assez vite. »
Oh, les cardiologues de province. Le grand professeur m'a dit que je pourrais reprendre le 1er novembre. Il se fait de soucis pour rien. Avant les vacances, je me suis inscrit à un séminaire sur les infections nosocomiales en urologie. Juste un week-end, c'est au Mont-Saint-Michel. J'y vais. Et de retour à Paris, je prends 2 billets pour Djerba, le week-end du 1er novembre.
Vous souhaitez une assurance annulation, monsieur ?
Ah non, merci, non. Non, non, pas nécessaire. Ma cardiologue est furieuse.
Marc, je te préviens. Si tu t'obstines à partir, je ne te reverrai plus. T'es complètement inconscient.
Et là, le doute s'installe. Et donc, je décide d'appeler la pitié.
Monsieur Géraud, vous êtes fou ? Enfin, c'est pas raisonnable. Vous êtes encore très fragile. C'est trop dangereux. Je suis clair ?
Oui, vous êtes clair, ok. Je vais tout annuler.
Le 3 novembre, je devrais être dans l'avion pour Djerba. Je suis à la maison, je veux me lever pour aller chercher de l'eau. Et là, d'un coup, mes jambes vacillent.
Papa ! Papa, tu nous entends ? Ne bouge pas, reste allongé. J'étouffe. J'étouffe, je crois que je refais une crise.
Dans ma clinique, il n'y a pas de service de cardiologie. Et donc à minuit, je me retrouve aux urgences de l'hôpital de Compiègne, chez l'ennemi. Mon cœur s'est encore dégradé. Retour à la pitié salpêtrière. Et pas sûr que cette fois, je puisse échapper à la transplantation. Et je me retrouve dans le même sas d'accueil, 3 mois après, toujours aussi obstiné.
Dites-moi, j'ai juste une petite doléance. J'aimerais être mis sur pied assez rapidement. Je dois être à Saint-Malo dans 10 jours pour le départ de la route du Rhum.
Ah, je ne vous promets rien. Le verdict de la coronographie est très mauvais. Mon cœur fonctionne très mal, c'est un échec. Et je me sens pour la première fois atrocement seul. À 45 ans, tous mes projets s'arrêtent. Il y a même des fois où je me dis que je préfère mourir. Oui, je préfère mourir plutôt que d'être transplanté. J'ai pas peur de mourir. Tous les jours, j'ai la visite de Maria, la cardiologue du service. Elle n'a pas ce côté inaccessible, pressé, lointain. Elle s'assoit souvent sur mon lit, à ma hauteur. Ça change beaucoup les choses, hein. Elle n'est plus la science, la connaissance, la médecine qui domine. Elle se met à la hauteur de mes interrogations. Ça m'a beaucoup marqué, ça. Je ferai ça, moi aussi. Je m'assiérai sur le lit. Et c'est comme ça qu'elle me fait accepter la fatalité de la transplantation.
Vous savez, Marc, vous vivrez comme avant. Vous pourrez reprendre le sport, partir en vacances, aller à la montagne. Il faudra juste que vous preniez le médicament anti-rejet, 2 fois par jour, c'est tout. Je pourrais aussi manger et boire du vin. Oui, vous devrez juste manger moins salé, c'est tout. Je pourrais faire l'amour, bien sûr, pourquoi pas.
Le jeudi 22 novembre, il est minuit passé. Nathalie dort déjà à côté sur le lit d'appoint.
Monsieur Géraud, bonsoir. Réveillez-vous, c'est bon. On a un cœur, il va falloir y aller très vite.
J'ai bien entendu. On a un cœur ? Ce soir ?
Je suis prêt. Je regarde Nathalie une dernière fois. Tout va bien se passer. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je suis totalement partant, aveuglément confiant et même enthousiaste. Injection dans le bras, vertige, vapeur, la tête qui tourne et puis... plus rien. Je reprends mes esprits. Où suis-je ? Ah, je suis dans mon lit. Avec plein de machines autour. L'intervention a réussi. Le miracle s'est produit. Bonjour, monsieur Giraud. Comment vous sentez-vous ? Ah, bonjour. Ah, je vais super bien. J'ai une pêche d'enfer. Quel jour est-on ? On est samedi midi. Et vous dormez depuis jeudi. Vous étiez en sommeil artificiel. On vous a plongé en sommeil artificiel pour... laissez à votre nouveau cœur le temps de s'adapter. C'est génial. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est ma résurrection. Je me sens bien. Je sens une nouvelle énergie en moi. Une force terrible. J'ai envie de me lever. J'ai envie de tout arracher. J'ai envie de courir. J'ai envie de revivre. Et il est là, Marc Giraud, preuve que l'histoire s'est bien terminée. Je rappelle que je tire cette histoire, Marc, de votre livre paru en 2013 aux éditions L'Appart, à cœur perdu. Alors il faut terminer l'histoire, Marc. Combien de temps avant de retourner au travail après cette dernière opération ?
Alors ce qui est étonnant, c'est qu'après la transplantation, on a besoin de retrouver le plus vite possible goût à la vie. Et moi, ça a été assez rapide, ça a mis un mois et demi, deux mois, parce qu'en fait, j'avais retrouvé un cœur qui marchait très très bien et j'avais vraiment retrouvé toute mon énergie. En plus, on est dopé par des corticoïdes, donc on est vraiment, j'avais vraiment cette envie de vivre énorme. Quoi.
Donc, quelques jours avant de retourner prendre votre poste à la clinique, il y a une séquence moi, que je n'ai pas eu le temps de raconter, mais que je vais vous laisser raconter. C'est, vous êtes reçu par votre associé. Et il vous dit cette phrase terrible, « Je ne peux pas continuer à travailler avec un handicapé. » Sympa.
Alors c'est vrai que il m'a convoqué, j'avais des permissions de week-end, j'étais en rééducation et j'avais des permissions de week-end. Et donc un week-end, il me convoque en me disant « Voilà, il faut qu'on voit. » Et j'étais avec mon remplaçant. Et il me dit « Je te présente machin qui va te succéder car je ne veux plus travailler avec un handicapé. » Donc ça m'a extrêmement choqué. Et je lui dis, mais écoute, moi, j'ai pas du tout prévu de m'arrêter. Et finalement, a posteriori, je le remercie parce que cette phrase m'a servi de défi.
Ça vous a boosté, quoi.
Ça m'a boosté.
Vous avez dit, je vais lui prouver que je suis pas un handicapé.
Et je vais lui prouver que je suis pas un handicapé, tout à fait.
Ça a été votre moteur, quoi. Et de toute façon, il pouvait pas vous forcer à partir puisque vous aviez des parts. Hein.
Oui.
Vous n'étiez pas salarié.
Mais c'est surtout que je me suis dit, mais quel challenge il me lance là, c'est extraordinaire. Et merci finalement, parce que.
Et c'est. Salaud et merci.
C'est un des choix qu'il faut qu'on fasse quand on reprend la vie active. Soit on revient avec l'étiquette de quelqu'un qui a été malade et qui est handicapé, et les gens auront toujours cette espèce de compassion qui finalement est pénible. Soit on tourne la page et on considère que rien ne s'est passé. Et finalement, j'ai pris, moi, cette deuxième option.
Mais finalement, il vous ressemble avant. Il ressemble à celui que vous étiez avant. Vous aviez ce sentiment d'invincibilité. Vous pensiez que la vie était une chose qui déroulait assez facilement.
Bah, la vie m'avait quand même souri jusqu'alors. Hein. Ouais. J'avais bien réussi mes études, j'avais une belle profession.
Vous gagnez bien votre vie.
J'avais une famille heureuse. Ouais. Et puis tout s'est explosé en très peu de temps.
Mais lui, votre collègue, il ne le sait pas encore que ça peut s'arrêter comme ça, quoi. Quelque part, vous avez philosophiquement un coup d'avance sur lui.
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que cette histoire, finalement, a posteriori, pour moi, c'est une histoire très heureuse. Et même s'il y a eu des souffrances, pour moi, je regarde un excellent souvenir parce que c'est finalement, ça m'a permis de me poser. J'avais une vie de fou, hein. Je travaillais comme un fou, j'étais... Et finalement, c'est la première fois dans ma vie où je me suis arrêté, je me suis posé, où il y a des gens qui se sont occupés de moi, que ce soit bien sûr toute ma famille, tout mon entourage, mais aussi tout le personnel hospitalier. Et vraiment, j'ai vraiment réalisé l'importance du personnel hospitalier, que ce soit les aides-soignantes, que ce soit les femmes qui font l'entretien. Et on a besoin d'elles, elles sont vraiment essentielles. Et là, j'ai vraiment réalisé leur importance ce jour-là.
Alors, le point de blocage pour vous avant la transplantation, si j'ai bien compris, c'était les médicaments anti-rejet. Vous vous disiez, au fond, ça va changer ma vie. Est-ce que ça a changé votre vie de devoir prendre ces médicaments matin et soir depuis le jour de votre transplantation? Je suppose que vous prenez toujours ce traitement aujourd'hui.
Oui, bien sûr, je les prends toujours et c'est quand même très stressant. Oui. D'abord, il y a les effets indésirables des traitements qui sont quand même là. Mais c'est surtout extrêmement stressant. C'est-à-dire que quand on part en vacances, par exemple, j'ai toujours la phobie d'oublier mes médicaments. Et très souvent, en fait, je dis à ma femme, attends, je m'arrête pour vérifier que j'ai bien mes médicaments. Ouais. Quand je prends l'avion, je les mets avec moi, je les mets jamais en soute. Parce que
on perd la valise.
48 heures sans médicaments, je suis mort.
Ouais. Donc vous aviez raison d'angoisser là-dessus. Et en même temps, ça se gère.
Oui, c'est une dépendance qui se gère.
C'est la seule contrainte aujourd'hui?
Alors, non.
17 ans après.
En fait, ça aurait pu être la seule contrainte, sauf qu'en 2012, j'ai fait la bêtise d'arrêter pendant quelques jours un médicament et j'ai eu une récidive en 2012 qui, là, m'a...
C'est un passage que j'ai pas eu le temps de raconter puisque ça se passe après la fin de mon histoire, mais vous faites un nouvel infarctus majeur en 2012 avec un cœur qui n'est pas le vôtre.
Exactement, oui.
Ça veut dire que vous avez rendu ce cœur malade?
Ben, en fait, j'ai une maladie qui fait que mon sang coagule trop. Et donc, boucher mes artères, et quel que soit mon cœur ou le cœur d'un autre. Et donc, c'est ce qui s'est produit en 2012. J'ai arrêté un traitement anticoagulant pendant 3-4 jours, et finalement, mon cœur nouveau s'est rebouché.
Incroyable. Et il y a donc un épisode qui intervient assez vite après votre transplantation. Grâce à Nathalie, vous savez quel est le profil de votre donneur, celui dont vous portez le cœur aujourd'hui. Comment ça se passe? Comment elle le sait, elle?
Alors, ce qui est important de dire, c'est que lorsqu'on, tout de suite après la transplantation, on ne pense pas du tout au donneur. On pense à soi-même, à récupérer. Et finalement, pour l'instant, le fait du don d'organes n'intervient pas. Et c'est 6 mois après que je fais une petite course. Et là, mon cœur s'emballe et je me rends compte comme si j'avais quelque chose d'étranger en moi et qui ne m'appartient pas. Et donc, on en a discuté avec Nathalie. Et là, Nathalie m'a révélé une situation très particulière.
Elle sait depuis le premier jour, en fait. Elle sait depuis le premier jour.
Elle le sait depuis que je suis au bloc au moment de ma transplantation, car j'ai été transplanté au moment du congrès d'urologie qui se tient tous les ans porte-maillot.
Elle y est, puisqu'elle est visiteur médical.
Et elle y est, puisqu'elle est visiteuse médicale. Et que donc, en attendant des informations sur ma situation, sur mon état de santé, elle se dit, je vais au congrès. Et donc, l'un de mes collègues et amis dit, bah alors Marc, comment ça va, etc. Et l'un d'autres dit, je sais, il va bien. Mais elle dit, mais
comment
tu peux savoir? Puisque il a été appelé cette nuit à 2h du matin, et c'est pas possible que tu saches. Et finalement, cet urologue lui dit, bah écoute, oui, je sais, parce que j'ai été appelé pour prélever les reins d'une personne cette nuit.
Qui est de 27 ans.
Voilà, d'un motard de 27 ans qui s'est tué en moto sur le périph'.
Donc vous savez que c'est un cœur jeune, mais vous pouvez savoir plus. Un accident à date fixe sur le périphérique.
Bien sûr. J'aurais pu savoir parce que j'avais des amis qui travaillaient à la Pitié-Salpêtrière. Dans tous les blocs opératoires, il y a des registres, donc je pouvais très bien savoir. Et c'est une question.
Vous avez été tenté?
Bien sûr, ça m'a tourloupiné pendant des années. Un peu comme ce film qui s'appelle 21 grammes, où on voit le receveur qui fait une enquête sur son donneur. Et moi, j'avais envie de savoir qui c'était. Pourquoi? Pour tout simplement leur dire merci. Car si aujourd'hui je suis là, si aujourd'hui je suis vivant, c'est parce qu'ils ont dit oui, tout simplement. Mais
vous auriez voulu dire aux parents de ce garçon, compagne, s'il en avait une, à ses enfants. Si
non,
c'est grâce à lui que je vis.
Grâce à vous, je suis là.
Ouais.
Et ce qui m'a convaincu d'arrêter toute recherche, c'est que j'ai été invité par le professeur Jacques Petit aux 20 ans de la transplantation à Amiens. Et là, je racontais ce sentiment devant tout le monde. Et... il y a un des messieurs dans l'assemblée, il y avait 500 ou 600 personnes qui étaient là. Il y a un monsieur qui s'est levé et qui m'a dit « Écoutez, moi, mon fils est mort et j'ai pas du tout envie de savoir que machin a son cœur, machin a ses reins. »
Quel est le couillon qui vit avec son cœur?
Exactement.
Probablement qu'il vous détesterait, en vérité, de vous voir vivant avec le cœur de cet enfant mort.
D'où l'importance du secret.
Vous y tenez.
D'où l'importance du secret du don d'organes.
Donc vous avez arrêté vos recherches.
Et du coup, j'ai tout arrêté et tant mieux. Et j'ai dit merci à ce monsieur qui m'a dit voilà.
Alors, évidemment, ce qui est très intéressant dans votre affaire, c'est tout ce que le médecin apprend sur la position du malade. Et on a quand même cette impression que presque vous n'aviez pas réfléchi à ça jusque-là. C'est-à-dire, par exemple, le moment du diagnostic, le moment où on vous dit c'est grave, ça va être lourd, ça va être brutal, votre vie s'arrête là, pendant des mois vous serez là, etc. Vous dites, en gros, jusque-là, moi j'ai annoncé des cancers à des tas de patients. Je n'avais pas aperçu à quel point c'était massif, ça bouleverser une vie.
C'est tout à fait. On ne se rend pas compte de la parole du médecin. Et tant qu'on n'a pas été patient et qu'on ne s'est pas pris l'information en pleine gueule, si je puis dire, parce que c'est comme ça, votre vie bascule. Hein. On vous annonce une maladie grave, votre vie bascule. L'argent, ça n'a plus d'importance. Les sentiments, ça n'a plus d'importance. C'est votre vie, vous allez mourir. Hein, donc, et donc, tant qu'on ne s'est pas pris cette information directement, eh ben on se rend pas compte de l'impact, de la force de la parole du médecin.
Et ça a changé votre manière d'annoncer les diagnostics graves ?
Ah oui, complètement. Ah oui, complètement.
Vous nous expliquez comment ? En quoi ?
Bien, en fait, quand j'annonce, parce que maintenant, vous savez qu'on a le devoir d'information, donc on doit dire aux patients la vérité, on n'a pas le droit de cacher, on n'a pas le droit de mentir. Mais intuitivement, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais intuitivement, quand j'explique à un patient l'annonce, j'imagine que je suis dans sa peau, que je suis celui qui reçoit l'information.
Vous y pensez à chaque fois ?
Oui, à chaque fois, je me dis. Et si c'était moi, si c'était à moi qu'on disait que j'ai un cancer du rein et je crois que ce qui compte, l'élément le plus important, c'est le temps qu'on va donner derrière à l'explication. Car à partir du moment où on a... Moi, ce qui m'a rassuré, c'est pas « vous allez être transplanté », c'est « vous allez vivre comme avant ». Et ça, c'est une phrase qui est une puissance. Vous allez vivre comme avant. C'est-à-dire que oui, vous avez quelque chose de grave, mais finalement, so what ? Qu'est-ce que ça va impacter ? Pas tant que ça.
Mais est-ce que vous essayez de faire passer le message à vos collègues qui, eux, n'ont pas encore vécu ce que vous avez vécu ?
C'est très difficile.
Non.
C'est très difficile.
Ils n'y sont pas passés, ils ne savent pas, quoi. Ils ne sauront pas.
Il n'y a que ceux qui sont passés et qui viennent me voir en me disant « Ah, mais je dis bienvenue au club ». Il n'y a vraiment que ceux qui ont vécu quelque chose. Tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, je crois que c'est très difficile de faire passer ce message.
Alors, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'on découvre que d'être médecin dans un système médicalisé, ça n'avance pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'ils font à peine attention au fait que vous êtes chirurgien. Vrai. Ils vous tutoient. C'est ce que vous gagnez.
Oui, mais tant mieux. Tant mieux. Je crois qu'on ne tire en rien. Je crois que...
Non, ça va. Ils vous traitent comme un malade ordinaire.
Bah heureusement, heureusement. Et moi, je remercie les infirmières de nous traiter normalement, parce qu'on est comme tout le monde. Hein. Et j'ai surtout, moi, jamais voulu faire d'ingérence dans la décision thérapeutique.
Il y a vraiment une scène très marquante, je pense que vous en avez conscience, c'est ce moment où donc Maria, qui est la cardiologue de votre transplantation, s'assoit sur le coin de votre lit pour vous parler. Vous n'aviez jamais fait ça vous-même. Vous parliez d'en haut.
C'est vrai que quand on est chirurgien, médecin à l'hôpital, on fait ce qu'on appelle la visite avec les infirmières. Il y a tout ce côté cortège, si je puis dire, qui finalement est très traumatisant pour le patient qui, lui, est allongé, souvent mal habillé, à moitié nu, déconsidéré. Et cet décalage de hauteur abaisse les gens. Et là, moi, j'ai vraiment été très sensible au fait qu'elle s'assoie, qu'elle me touche, parce que j'aime le contact de la main, et qu'elle se mette à ma hauteur pour m'expliquer des choses simples et pour me faire comprendre et intégrer ce qu'il fallait que j'accepte. Ce décalage m'a permis de... Ce même niveau m'a permis d'accepter. Ce que j'étais prêt à totalement refuser avant.
C'est agaçant, le médecin qui domine de sa science.
C'est vrai, qui est donneur de leçons, qui est un peu... ce que je dis à valeur de... Et ce qui ça a eu un impact aussi sur moi, c'est quand le grand patron est passé un soir dans le service et m'a dit « Géraud, vous reprenez vos consultations le 1er novembre ».
Vous l'avez cru ?
Moi, je l'ai cru.
Puisqu'il était debout.
Voilà. Et moi, j'étais dans le déni le plus complet. C'est-à-dire que quand les autres cardiologues me disaient « Mais ton cœur se dégrade », j'ai dit « Mais attendez, c'est bon. Le grand patron de la pitié m'a dit que, donc c'est bon ».
Alors maintenant, le docteur Géraud s'assoit sur le coin du lit.
Oui, oui, oui. Et le docteur Géraud dit aussi aux patients que c'est très agréable de prendre une douche, que c'est très. Et je me bats contre ces espèces de camisoles de force qui sont ces combinaisons atroces qu'on me donne à l'hôpital parce qu'on ressemble à rien. Et moi, je dis aux gens, mettez un t-shirt, mettez un short sympa, habillez-vous, prenez une douche, parce que moi, pendant 3 semaines, j'ai rêvé de prendre une douche.
Vous leur racontez, il vous est arrivé de raconter à
bien
des
sûr,
patients.
Ben bien sûr.
Moi aussi, je suis passé par là où vous êtes.
Mais bien sûr, et au contraire, ça crée une sympathie, on fait partie de la même famille.
Bon, maintenant, il faut qu'on torde le cou à 2 séquences, qui évidemment vont beaucoup amuser, vous avez l'air d'être bon vivant. Mais enfin, les gens ont sans doute été choqués en écoutant de vous voir boire du Bordeaux en réanimation cardiaque.
Bah oui, 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 pourquoi ? Et ça fait partie de... Je pense qu'il faut désacraliser les choses. Et effectivement, la réanimation cardiaque, c'est un endroit comme un autre, avec des gens humains. Et les infirmières sont venues trinquer avec nous et elles étaient contentes. Et finalement, voilà.
Et encore, j'ai économisé une scène, puisque le jour de l'anniversaire de Nathalie, vous ouvrez une bouteille de champagne.
Oui, oui, c'était pas contre-indiqué, c'était pas gênant, et on l'a fait bien sûr avec délicatesse. Mais l'arrêt cardiaque, c'était très dur, hein, parce que j'étais en quarantaine et j'avais droit à une visite de 5 minutes par jour. Hein.
Oui.
C'est très dur.
Vous étiez en aplasie, c'est-à-dire.
Oui, j'étais complètement en isolement complet. Mmh. Hein, c'était très très dur.
Est-ce qu'il reste une trace du trompe-la-mort qui voulait aller à Djerba ? Ou est-ce que ce marque-là a disparu ?
Ce marque-là a disparu en 2012. Où là
après
j'ai...
la rechute.
Oui. Où là, jusqu'alors, comme j'avais été sauvé d'un arrêt cardiaque à la Pitié-Salpêtrière au tout début de mon histoire, pour moi, j'étais un peu invincible. Et j'étais fou, quoi. J'étais tellement heureux de vivre que pour moi, il n'y avait pas de limite. Et j'étais brutalement ramené à la case départ quand en 2012, je me suis retrouvé à nouveau dans un camion de SAMU, à nouveau avec un infarct, parce que j'avais tout simplement arrêté de prendre un médicament pendant 4 jours. Et là, c'est pas de mourir que j'ai eu peur. Ce que j'ai eu peur, c'est de ne plus vivre. Ce qui est totalement différent. Parce que la mort, bon, la mort, c'est la mort. Mais ce que j'avais là, dans ce camion de SAMU qui m'a emmené entre Compiègne et Paris, j'ai dit au revoir à ma femme, j'ai dit au revoir à mes enfants, et je me dis, quand je pense que ça se trouve, demain, je ne les verrai plus.
Puis il y avait un bébé, là. Alors, je ne vais pas raconter la naissance du bébé, mais c'est une fille, elle est née, Capucine.
Oui, bien sûr, Capucine est née.
Puis il y en a eu une autre après.
Oui, il y a eu un garçon qui s'appelle Auguste et qui est né.
Il est là derrière la vitre. Il assiste à l'émission. Quel jugement, vous qui venez de l'hôpital public, vous étiez à Cochin, à l'assistance publique, qui êtes passé ensuite à la médecine privée de rentabilité, vous le dites dans votre livre, vous ne le cachez pas, c'est une médecine qui fait du cash. Vous le reconnaissez vous-même dans les premières pages de votre livre. Quel jugement est-ce que vous portez sur cet hôpital public, donc la Pitié-Salpêtrière, qui accueille l'élite de la médecine française, mais dont on dit qu'elle est vétuste, vous le dites vous-même, les bâtiments sont décatis, vous vous retrouvez dans des pioles moyennement accueillantes. Au total, quel jugement avez-vous sur la médecine française d'aujourd'hui ?
Alors, privé-public, c'est deux systèmes qui sont différents, qui n'ont rien à voir. Mais la médecine française d'aujourd'hui, elle est quand même assez exceptionnelle. Il faut savoir quand même que, je prends mon exemple personnel, j'ai fait 9 mois de réanimation cardiaque, j'ai eu 3 interventions à cœur ouvert, j'ai eu le cœur de quelqu'un d'autre, on ne m'a pas demandé un centime. Pas un centime. C'est quand même dingue.
Vous avez une idée de ce que ça a coûté ?
Ah ben, j'ai pas fait le calcul, mais c'est énorme. Mmh. 2 000 euros par jour pendant 9 mois.
Ouais. Non, c'est la énorme. La moitié d'un million.
Et j'ai quand même été sauvé par des gens d'une gentillesse, d'une accessibilité, d'une disponibilité, mais que je remercierai jamais assez.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.